jase.
Je préviens, on jase.
On en jase sur les ondes de Boulevard 101, midi à 14h du lundi au vendredi. On a de la visite en studio. Le maire sortant, Bruno Marchand, en pleine campagne électorale qui est là. Comment allez-vous, M. Marchand?
Très bien, salut à vous trois.
Merci, merci beaucoup. M. Marchand, moi, je vais toujours m'inspirer de ceux qui ont de l'expérience dans la vie. C'est la première fois que vous venez à mon émission. Normalement, vous venez rencontrer Denis Gravel.
Oui, je suis venu souvent.
Oui, donc j'ai demandé à Denis, j'ai dit « Denis, je veux que tu me coaches pour comment je pourrais aborder l'entrevue avec le maire Marchand. » Donc, je lui ai demandé ça ce matin dans le segment du Pit Stop à 7h45 dans Marceau le matin. Je vous fais écouter ce qu'il m'a donné comme conseil. Vous êtes prêts?
Oui, je suis prêt.
OK, parfait. Je vous fais écouter ça.
Facile. Tu vas-tu lui demander pourquoi est-ce qu'il est pour le tramway?
Ben, je vais lui demander ça.
C'est le temps que quelqu'un lui demande.
Ben, c'est ça, j'aimerais
ça. Ça va faire un niaisage. Il n'y a jamais personne qui a demandé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas consulté le monde sur le tramway? Ben, tu vas-tu lui demander la question? Tu vas-tu lui demander pourquoi est-ce qu'il y a une taxe au chat? Comment ça se fait qu'il y a quand le contribuable de même? Tu vas-tu lui poser la question?
Je prends des notes.
Il n'y a pas personne qui pose des questions, puis on est tout le temps sur le dos de Stéphane Lachance qui fait son possible pour nous représenter. Tu vas-tu lui poser les vraies questions? Il n'y a jamais personne qui pose les vraies questions à Bruno Marchand. J'espère que tu vas te tenir debout, puis tu ne toucheras pas à terre comme Gravel, puis les autres sensus du pouvoir. Ça va faire! Je suis un contribuable, je suis fauché! Je vois pas mes enfants, j'ai pas de fun! Ma blonde veut plus me fourrer!
Aïe! Êtes-vous content d'être ici ou vous auriez aimé mieux être au débat à Choix FM tout à l'heure?
Ah non, je préfère Boulevard et de loin.
Et de loin,
mais,
OK.
Mais Denis est super drôle.
Ouais, c'est ça.
Mais ça veut-tu dire que vous fraternisez entre vous, là, si vous trouvez drôle?
Ouais.
Est-ce que c'est votre magnétisme qui agit sur Denis?
Je sais pas, ça n'a pas été prouvé, ça, le magnétisme. Ça a été divulgaché, mais on ne sait pas si c'est vrai.
Oui, Monique est-elle jalouse de votre magnétisme?
Elle ne me l'a pas dit.
Elle ne l'a pas dit, parce que là, vous êtes avec deux femmes en studio.
Oui, non. Non, mais je pense pas.
Votre couple, là.
Non, mais je sais bien, mais je pense pas.
C'est j'espère que non. J'espère que c'est drôle, il a tellement raison. Sérieusement, j'ai demandé aux auditeurs de poser des questions. Ils me posent toujours cette question-là. Il faut que je vous la pose. Pourquoi il n'y a pas eu de consultation sur le tramway de référendum, entre guillemets?
Mais il n'y a pas eu de référendum. Il y a eu une consultation qui s'appelle une élection. Là. À la dernière élection en 2021, il y avait 5 partis, 4 partis pro-tramway qui ont ramassé la majorité des votes. Les gens, s'ils avaient voté pour Québec 21, les gens de Québec 21 proposaient de ne pas faire de tramway et ils ont eu une minorité de vote. Alors, c'est une forme de consultation. N'oubliez pas là, que faire un référendum, ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de référendum, s'ils perdaient le référendum, ils diraient que ça en prendrait un deuxième. Ils diraient que ça n'a pas été la bonne question. Ils diraient qu'il n'y avait pas toutes les bonnes informations. Ça ne finit jamais. Mm-hmm. Les grands projets, si on veut les mener à terme, il y a des élections pour les réfléchir et que les gens votent, puis après, il faut avancer. Sinon, si on les remet en question à chaque élection, comme c'est fait là par M. Lachance et M. Hamad, on revient toujours en arrière. Et je vais vous faire un pronostic. Là. Admettons que M. Hamad gagne, là, mais je vous jure qu'en 2029, un, son SRB ne sera pas avancé, puis il va y avoir quelqu'un pour dire « ça prend une autre élection là-dessus ». Puis ça, on n'avance pas dans des grands projets. Alors, à un moment donné, une fois qu'on a voté, bien, il faut assumer le fait que on avance. Sinon, comme ville, on revient toujours en arrière.
Fait que pour vous, c'était à cette élection-là. Je sais qu'il y a plusieurs critiques à votre égard qui disent « Ouais, mais il y avait mentionné en campagne électorale 2021 que ça prendrait l'acceptabilité sociale.
Oui,
on
ne
l'a pas dans les sondages. » Mais vous le faites plus sur le vote de 2021.
Ben oui, mais l'acceptabilité sociale, les gens résument ça à un référendum. C'est bien plus large que ça, là. L'acceptabilité sociale, c'est aussi la capacité de dire à qui ça sert. Si à chaque fois qu'on fait quelque chose de grand, il faut faire un référendum, il faut que tout le monde l'appuie, bien, il n'y aura jamais de construction. La construction d'autoroute sur Henri IV qui a été agrandie n'aura jamais passé parce qu'il y a plein de gens qui auraient dit « Moi, je ne l'utilise pas Henri IV. Moi, je ne suis pas payé dans le trafic. Donc, je ne suis pas d'accord que les gens de Val-Bélair voient un agrandissement au coût de 400 millions. » Comme ville, oui, il y a des propositions électorales qui sont faites dans une campagne. Ça sert à ça. Puis après ça, on va de l'avant puis on essaie de servir le mieux possible, d'expliquer, d'être pédagogique, d'entendre les critiques, d'améliorer le projet. C'est ça aussi l'acceptabilité sociale.
J'ai le sentiment que, bon, on a brassé assez cette soupe-là puis il y a comme une deuxième phase qui va arriver là, puis les gens vont, oui, dire ce qu'ils pensent, mais un petit peu moins être colériques face au référendum et autres. Par contre, sous votre règne, sous votre mandat, il y a eu des critiques par rapport à l'écoute face aux citoyens. Est-ce que la sous-couche de ça sera, peut-être pour un quatrième mandat, si vous êtes réélu, d'un peu plus écouter les citoyens, pas seulement dans ce type de projet-là, mais être un peu plus ouvert à aller chercher le pouls?
Probablement qu'on ne l'a pas dit assez, ou que la façon qu'on l'a fait, ça n'a pas rejoint les gens, pour ceux qui disent ça. On a fait plus de consultations qu'on n'en a jamais fait à Québec. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait s'il y a des gens qui continuent de dire ça. Cependant, Donc, ouvert à m'améliorer, là, sincèrement, la question est pertinente, absolument. Il reste quand même que si tu veux faire plaisir à tout le monde, tu ne gouvernes pas. Si tu veux faire plaisir à tout le monde, il faut que tu vendes de la crème glacée. Puis je vais vous donner juste un exemple super simple. On a changé un stationnement temporaire dans une rue à Québec. Il y avait 3 commerces qui étaient là. Il y avait un commerce qui voulait un 1 heure. Il y avait une quincaillerie qui voulait un 20 minutes. Puis il y avait un restaurant qui voulait un 2 heures. On avait un choix à faire. On a choisi le 20 minutes, puis on a permis aux autres commerces d'avoir à proximité, pas sur leur façade, mais des stationnements qui étaient en plus grande durée, moins payants. Il reste quand même qu'une de ces commerçantes-là m'a dit « Vous écoutez pas le monde, parce qu'on n'a pas mis en place ce qu'elle voulait, mais qui était impossible à faire. » Donc, gouverner, c'est aussi arbitrer des choses qui sont pas toujours réconciliables, mais d'essayer de trouver des solutions, des compromis, des voies de passage qui font en sorte que tu fais avancer la ville, tu ne restes pas dans le statu quo à attendre que tout le monde soit unanime, et en même temps, essayer de trouver des solutions et à mitiger les effets de tes décisions.
Mais l'unanimité n'est pas possible, on est d'accord là-dessus, mais de dire que la consultation, c'est l'élection, on se fait élire sur des pourcentages qui ne sont pas nécessairement du 50% plus 1, on est d'accord, c'est assez rare. Ouais. Comment on fait? Parce que tantôt, vous disiez... Il y a des gens qui vont toujours être contre, puis peu importe comment ça va être fait, ils vont être contre, ils vont être contre, ils vont être contre. Mais il y a quand même une partie de la population qui peut être sceptique, pas encore convaincue, mais qui est possible à convaincre. Comment on va faire dans un contexte aussi divisé pour aller chercher davantage d'adhésion des gens de Québec autour de ce projet-là?
Je pense qu'il faut l'expliquer. Je pense qu'il faut l'expliquer 100 fois. Une des choses que présentement, qu'on ne savait pas il y a 4 ans et qu'on sait maintenant, c'est que le contexte économique étant ce qu'il est, si on n'avait pas de projet comme ça, notre économie serait mise à risque. D'avoir 7,6 milliards d'investissements publics, puis d'avoir 4,5 milliards d'investissements en logement, là, dans le contexte de l'incertitude américaine où il y a des entreprises qui arrêtent d'investir, où le chômage des jeunes augmente significativement. Là. Au Canada, 14,7 % des jeunes sont en chômage. C'est fou là, comme données. Ce n'est pas les données que nous, on a connues depuis 10 ans, 15 ans. Là. Il y a des jeunes qui sortent de l'université, puis ils ont de la misère à se trouver des jobs. Là. Ça revient à ce qu'on vivait dans les années 80, 85, 90. Alors, ça suppose quoi? Ça suppose que pour compenser le ralentissement de l'économie, on soit capable d'investir dans des infrastructures publiques qui vont nous permettre des gains à long terme, mais qui, déjà à court terme, investissent dans nos entreprises avec des investissements pour lesquels ils vont nous aider à construire les projets. Construire du logement, la meilleure façon de construire du logement, c'est d'être attractif, c'est d'amener des capitaux. Et on sait que le tramway, c'est aussi une source pour les capitaux de venir ici parce qu'ils savent que ça va être payant. Ça va être bon.
D'ailleurs, le secteur des affaires de Québec demande qu'on aille de l'avant avec un transport structurant.
Et plus que jamais, parce que le contexte d'incertitude économique, notamment lié à Donald Trump et aux actions américaines de protectionnistes, ben, fait en sorte que notre économie est mise à mal. Là, nous, on est une des rares villes à avoir ces investissements-là. On ne le savait pas il y a 4 ans, mais vous me demandez comment on fait. Mais il faut aussi expliquer ça. Pour notre économie, présentement, là, c'est énormément positif. Et revenir en arrière et attendre 2, 3, 4 ans à partir d'un autre projet, c'est pas d'argent dans nos entreprises, c'est des jobs qui se perdent, c'est du chômage chez les jeunes, et c'est pas ça qu'on veut.
Je vous résume ma vision de votre premier mandat de 4 ans. J'ai vu un Bruno Marchand les 2 premières années s'adapter au poste de maire. Puis même en 2023, fin 2023, c'était difficile. Bon, tramway retiré, les statistiques en économie à moins 0,3, les statistiques en logement à moins 40 %. Puis là, dans les 2 dernières années, je vois un Bruno Marchand revigoré. Il y a du logement, il y a le tramway qui avance. Je me trompe-tu? Je fais-tu une bonne évaluation?
Oui. Il faut l'admettre, l'apprentissage, la courbe d'apprentissage, elle n'est pas simple parce que tu arrives, et pas juste parce que tu arrives, mais parce que transformer des choses au municipal, prenons le logement, là, ben, avant d'avoir des résultats pour transformer, avoir les bons chiffres qu'on a en logement présentement, les meilleurs au Canada sur la croissance entre l'an passé et cette année, il a fallu tout transformer. Mais changer une culture dans une organisation, parce que c'est ça qu'on a fait, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de discussions. On a transformé plein de pratiques. On a enlevé du rubber stamping. On a enlevé du...
Oui, en termes de délai, c'est quoi la rapidité de délai maintenant pour un permis de construction par rapport à quand vous êtes arrivé? Y a-t-il des stats?
Bien, on a amélioré, mais en même temps, il faut faire attention. Pourquoi? C'est que tout ce qui demande pas une modification au règlement, ça se fait super vite. Là où ça devient compliqué, c'est que si tu me dis, moi, je veux construire dans un endroit où je peux juste construire du 4 étages, je voudrais construire du 6 étages.
L'eau d'Orchester, par exemple, aussi.
C'est ça. Là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que là, ça nous demande, à travers nos règlements et la loi sur les cités et villes, s'il y a un référendum qui est demandé dans le référendum, s'il y a des consultations obligées, là, on prend du temps. Et souvent, c'est des allers-retours entre villes et promoteurs. Ben, là, OK, tu veux du 6 logements, mais peux-tu mettre un parc? Les gens dans ce coin-là aimeraient un parc. Ah non, je veux pas un parc. Oui, mais il va être grand comment? Cet aller-retour-là est un peu plus long. Mais ce qu'on a fait, c'est de réduire beaucoup, beaucoup de ces délais-là pour beaucoup, beaucoup de promoteurs. Les promoteurs à Québec, présentement, ils disent que ça va mieux que dans la très grande majorité des villes au Québec. Pourquoi? Parce que la culture à la ville s'est transformée. On est écouté, on travaille en partenaire. On ne fait pas n'importe quoi, mais on travaille en partenaire. Et c'est pour ça qu'il y a autant de grues à Québec. En logement, qui est notre priorité, nos chiffres sont incroyables, mais c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Mm-hmm. Ça a pris plusieurs mois à s'adapter. Et le tramway, au début, a bouffé beaucoup de temps aussi, hein?
Oui, la chicane avec la CAQ a beaucoup de
temps. Ça a pris beaucoup de temps. Là, on est sur les rails, ça avance, on se concentre sur un paquet de problèmes, notamment le logement, et ça marche.
Est-ce qu'on sent au municipal ce qu'on sent, entre autres, peut-être un peu plus au provincial qu'au fédéral, soit il va falloir laisser le privé avoir une certaine place. Puis on parlait de logement, on pense au Trudel, c'est sûr, à Québec et tout ça, mais eux, on dit, bien, si on veut faire un projet, nous autres, on va de l'avant, puis on trouve les problèmes avant que la ville nous arrive avec un blocage continu. On a l'impression en politique en ce moment que le bas blesse avec le privé en se disant, ouf, peut-être que c'est trop gros. Gérer certains enjeux, puis le privé doit avoir une cadence. On l'a vu avec la santé, beaucoup, beaucoup dans les dernières heures et tout ça. Est-ce qu'on le vit à Québec, puis est-ce que le privé devrait prendre une plus grande place?
Je pense qu'à Québec, on est en meilleure posture. Nos finances sont meilleures, notre dette est meilleure. On a dans les plus grandes villes du Québec le meilleur ratio dette-revenu, donc on a une meilleure capacité d'agir. Ça, c'est important. Ça nous coûte moins cher d'intérêt. Ça aussi, c'est important. M. Labeaume a fait un super travail, puis on l'a accentué. Fait que pour moi, là, rembourser la dette, c'est fondamental pour libérer les générations futures des intérêts sur cette dette-là. Mais ça n'empêche pas qu'on a quand même à se réformer. Ce que vous dites est vrai. Parfois, le public, on est lourd et on manque d'agilité. Qu'est-ce qui fait qu'on a réussi en logement? C'est qu'on a développé de l'agilité. Qu'est-ce qui fait qu'on a réussi en logement? C'est qu'on a réussi à traiter, exactement comme vous venez de le dire, le partenaire privé comme un égal.
Est-ce que c'est difficile pour un leader au public de le faire?
Non. Vous savez, il y a des gens qui disaient « t'oseras peut-être pas prendre des photos avec du monde du privé ». Non. On ne peut pas, comme ville, penser que sans le privé, on va arriver au même résultat. C'est impossible. C'est impossible. On n'est pas des constructeurs, par exemple, de logements. On n'est pas des promoteurs. Mais on est capable, par contre, dans notre champ d'expertise, de réaliser des grandes choses. Et à Québec, ce qu'on oublie, parce qu'on finit par être enseveli de nouvelles où ça va mal, les sacs de ce monde qui coûtent des millions et des centaines de millions de plus, nos projets, là, on les livre dans les délais et dans les coûts, là. La centrale de police, l'usine de biométhanisation, le centre Intac Assurance, le centre Vidéotron. On a des grands succès. La bibliothèque Gabriel-Leroy, ça ne fait jamais écho autant qu'un insuccès comme ça clique. Mais il faut regarder ce qu'on a réussi. On livre dans les délais, dans les coûts. Et honnêtement, on a de quoi être fier. Et ça, c'est la combinaison de ce que les entreprises privées font et de ce que le public est capable de faire pour gérer le meilleur.
Il faut qu'on revienne sur cette controverse avec sa maman des Stéphane Lachance, cette alliance qui a fait l'objet de plusieurs discussions et possiblement d'un geste illégal de l'équipe de M. Lachance. On verra s'il y a une enquête. Est-ce que c'est trop facile, votre campagne? Dans le fond, vos adversaires sont en train pratiquement de s'auto-détruire. Vous ouvrez une autoroute. Vous devez être mort de rire, M. Marchand.
Ben, c'est vrai que c'est à côté de moi, là. En même temps, ça donne pas des lettres de noblesse à la politique municipale, là. Ça fait pas rejaillir quelque chose de glorieux à la politique municipale. Je pense que les gens sont tannés que ça soit géré comme ça. Moi, je trouve que ça nous ramène à la gestion de Laval, à la gestion de Montréal d'il y a 20 ans, à la gestion de « donne-moi quelque chose, je vais te donner quelque chose ». Alors là, M. Hamad a dit ce que M. Lachance lui avait proposé. M. Lachance a dit sur un média aujourd'hui, je pense, c'est pire ce qu'il lui m'a offert. Bien là, dites c'est quoi? Il ne faut pas faire des allégations sur M. Hamad sans dire c'est quoi que M. Hamad aurait fait, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne le sait pas. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on prend rien pour acquis, là. La question, tantôt, était bonne. C'est pas vrai qu'en 4 ans, on a été parfait, là. C'est pas vrai qu'en 4 ans, il n'y a pas des choses qu'on n'a pas mal expliquées. C'est pas vrai qu'en 4 ans, il n'y a pas des choses sur lesquelles je peux pas apprendre puis avoir un meilleur mandat pour le prochain. Et ça veut dire pas prendre pour acquis quoi que ce soit pour le 2 novembre, même si pour nos adversaires, ça va mal pour les deux campagnes. On fait des annonces tous les jours, vous avez remarqué, là? On a plus d'annonces économiques que n'importe quel autre des partis réunis. On est dans le mode, on ne jouera pas fessier, là. On a une vision pour la ville à présenter, puis on va la présenter avec des engagements réels sur lesquels on va livrer.
Puis vous parlez de vos annonces. Est-ce que vous trouvez que dans la couverture de la campagne, on prend assez d'espace pour parler justement du fond des choses,
non.
des propositions,
c'est toujours
ou
comme
justement
ça.
Ces chicanes-là entre vos deux adversaires prennent trop de place?
Ben oui, puis c'est pire. Les chicanes font en sorte que c'est pire qu'avant. On aimerait toujours parler plus de couverture de sujets. Hier, on a fait une annonce pour les familles. C'est super compliqué de s'inscrire aux activités aquatiques. C'est de la merde.
Ah, c'est le bordel.
OK, c'est le bordel. On donne une date, je dis n'importe quoi, le 12 février à 6 heures. Il faut que tu sois devant ton ordi. Tu appelles ton père, qui est le grand-papa de ton enfant.
Il y a des gens qui ont jusqu'à 7-8 écrans
devant
eux.
Des iPads, des
écrans. On s'entend que les cours de natation, là, c'est quand même quelque chose qui devait pas être donné à tous.
Alors, ça marche plus. OK? Fait que là, on a dit, bien, on refait ça. Là. Les gens vont pouvoir s'inscrire. On va faire un tirage au sort, puis on va augmenter le nombre de places. Mm-hmm. On est déjà à Québec avec plus de places qu'ailleurs, mais c'est pas grave.
Avec des cours en période estivale.
Entre autres, les parents nous disent, bien, nous, l'hiver, c'est le hockey. Nous, l'hiver, c'est le patinage artistique, peu importe. On aimerait ça à d'autres moments, soit en lien avec les programmes vacances été ou juste l'été, que notre enfant puisse suivre un cours aquatique. On a fait un projet pilote, notamment dans Beauport l'an passé, puis ça a super bien marché. On ouvre 1000 places de plus pour l'été prochain. Et on arrête les inscriptions où tout le monde, à 6 heures le soir, dans la vie familiale, les devoirs, les lunchs, tout, faut t'inviter les grands-papas, puis tu fasses un party d'ordinateur pour t'inscrire. Ça marche pas. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit, ouais, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait il y a 4 ans? Parce que quand tu arrives, tu ne peux pas tout corriger en même temps. C'est pas vrai qu'en 4 ans, tu peux tout faire. Mais ça, ça fait partie des choses qu'on a écoutées. Pour les familles, ça ne marche pas. On va l'améliorer, on va le corriger, puis on va le faire.
15 jours, ça peut être un petit peu un copier-coller.
Mais 15 jours, ça s'est beaucoup amélioré. 15 jours, le défi qu'on a, c'est que c'est pas centralisé. Fait que si t'es au loisir Montcalm, si t'es ici à Charlebourg,
c'est des
processus différents. Mais avec tous ces partenaires-là, on a amélioré le processus. Et l'an passé, on a eu beaucoup de bons commentaires, beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, parce que c'est vrai que ça aussi, c'était le bordel. Ça s'est amélioré, puis on est content du travail qu'on fait avec nos partenaires.
Je vous reprends au mot. Vous dites qu'il y a des choses qu'on aurait aimé faire différemment. On n'est pas parfait. Saint-Roch est-il justement une chose que vous auriez fait différemment dans les 4 dernières années?
J'aurais accéléré les choses. On a fait des bonnes choses, mais la situation s'est empirée. Mm-hmm. C'est pas tant de notre faute. C'est pas grave, c'est notre responsabilité. Fait qu'il y a des
Qu'est-ce
choses...
que vous auriez accéléré?
Ouais, quoi?
Bien, sur le logement, ce qu'on fait, ça va amener beaucoup d'air. Là.
Okay.
Saint-Roch a été construit sur une transformation pour amener des bureaux.
Ouais.
Parce qu'à une époque, Saint-Roch allait mal. Puis
ouais, c'est comme ça qu'on a revitalisé avec Jean-Paul Lallier.
C'est une bonne idée, exactement. Puis je suis pas une critique de M. Lallier. Le problème, c'est que personne n'a vu venir, puis personne ne pouvait, que la pandémie amènerait une totale réalité différente du travail, et particulièrement dans le monde du jeu vidéo, où c'est encore plus facile de travailler chez soi.
Ben oui.
C'est un univers où tu travailles sur des choses très précises. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens y vont plus. C'est dur pour les commerces. Mm-hmm. Évidemment, l'itinérance fait partie du portrait. Alors, il y a des choses qu'on aurait fait différemment, mais présentement, on fait les bonnes choses. Et honnêtement, ça va donner des résultats. Puis, on m'a accusé d'avoir de l'ambition avec l'itinérance zéro. J'ai jamais dit qu'on ferait l'itinérance zéro pour 2025, mais je continue de penser qu'il faut avoir de l'ambition puis se dire on va atteindre l'itinérance zéro. Parce que c'est pas vrai qu'on va dire ben on n'a pas d'ambition.
Ouais.
La Finlande y arrive. Christy, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je suis déçu de l'engagement du gouvernement du Québec là-dessus. M. Carman travaille très fort. Ils ont mis plus d'argent qu'il y en avait avant, c'est vrai. Pas assez à la hauteur du problème. Et comme ville, ben, faut compenser. On n'a pas le choix.
Parmi l'autre chose, d'autres critiques que j'entends, c'est les fameuses banlieues. Puis là, vous avez annoncé de l'asphalte pour 400 km. Pensez-vous que vous auriez pu faire mieux en banlieue dans votre mandat?
Je vais te dire, là, il faut être honnête. À chaque fois qu'on a fait des conférences banlieue, là, ça a toujours fini sur le tramway. Le tramway prenait tellement de place. Mm-hmm. Pis, rajoutons le troisième lien. Puis vous le savez, vous avez été à plusieurs conférences de presse.
Oui.
On a annoncé de la culture en banlieue. On a annoncé des infrastructures de proximité. Je vais vous donner un exemple. Cette année, c'est le record absolu d'argent investi pour réparer et créer des infrastructures de proximité dans les quartiers. Là.
Fait que là, on parle de parcs, de centres communautaires.
On parle de parcs, de skateparks, de centres communautaires, de piscines, de jeux d'eau. Là, on en a mis 78 millions. Avant qu'on arrive, c'était 35 millions. Puis les gens nous ont dit, « Ouais, mais vous n'avez pas de centre Vidéotron. Parfait, je l'assume. » Pas parce que c'est pas important le centre Vidéotron, parce que je voulais investir dans les quartiers. Mais à chaque fois qu'on faisait une conférence pour parler de ça, le titre, c'était quoi? C'était le tramway, le ci, le ça, sur le troisième lien, et ça occultait.
Geneviève Guilbeault vous a pas aidé, là?
Ben, c'est pas de sa faute. Non, monsieur, là-dessus, j'avais pas de blâme à Mme Guilbeault. C'est juste que j'ai pas de blâme aux médias non plus. Ça devenait les sujets qui étaient des trous noirs qui mobilisaient tout. Fait qu'il y a plein d'idées notamment des bibliothèques qu'on a rénovées, notamment de la culture qu'on a amenée en banlieue, notamment des activités qu'on a amenées, des activités sportives, les championnats cyclistes à Charlebourg. Il y a plein de choses qu'on a faites pour la banlieue parce que j'ai dit que c'était important pour moi et je pense qu'on a fait beaucoup. Mais est-ce que ça a percolé? Non. Il faut que ça percole. Puis oui, les kilomètres d'asphalte, je les assume. Puis oui, il va en avoir 300 kilomètres en banlieue parce que oui, il faut réparer les routes. Oui, il faut réparer les boulevards. Puis oui, il va rester des autos. Contrairement à ce qu'on m'accuse, là, c'est pas vrai que je suis anti-auto. Mais pour rendre ça fluide pour les automobilistes, là, ben ça prend du monde qui ne sont pas dans leur auto. Fait que toi, tu n'aimes pas le vélo, tu n'aimes pas la marche, reste comme ça, garde ton auto. La meilleure nouvelle, c'est qu'il y a du monde qui utilise d'autres moyens de transport pour rendre ça plus fluide pour toi. C'est à ça qu'on travaille.
C'est peut-être les deux semaines où j'étais pas là, deux semaines, trois semaines où j'étais pas là, qui vont me nuire pour la prochaine question.
Mais peut-être.
Si ça a été dans les enjeux quotidiens, vous me
le direz. Je te le dirai.
Souvent, actuellement, la politique, puis on a déjà eu une conversation, on a déjà été en entrevue ensemble au téléphone, puis je parlais beaucoup de politique de justification, hein, se justifier. Au lieu d'avoir une certaine ouverture, et là, pas dans tous les concepts, et d'expliquer aux gens. Pour la suite des choses, il y a tellement d'enjeux importants, puis là, on se perd dans votre magnétisme. Même moi, je suis déstabilisée en ce moment, puis on se perd dans les soirées pour femmes avec M. Lachance, puis les réfifi anti, ça. Mais les taxes restent quand même un enjeu et un défi important à Québec. Ouais, puis Yann ne paiera jamais sa taxe au chat que vous avez demandé. Il a même déménagé pour pas que vous le retrouviez avec ses chats puis tout ça. Mais
non, là, on le fait pas dans le
mais
les taxes des chats, il y en a dans toutes les villes du Québec, toutes les grandes villes.
La gestion des finances est vraiment importante. Puis souvent, c'est une justification de... C'est quoi la suite des choses pour votre parti, M. Marchand, en termes de politique au niveau de la finance qui sort directement de la poche des gens qui nous écoutent?
L'inflation sur 4 ans a été à 16,5. Notre hausse du compte de taxe a été à 11,5. C'est 400 $ qu'on a laissé dans les poches des gens à pas charger à l'inflation, ce qui était pourtant notre cadre financier. Notre cadre financier nous disait que vous devez monter les taxes à l'inflation. On le fait en deçà. On n'a pas respecté le cadre financier là-dessus pour moins charger aux citoyens. Il reste quand même que dans cette période inflationniste, on avait nos défis, nous aussi, là, tout coûte plus cher pour nous aussi, comme pour les citoyens, puis on sait qu'il y en a qui sont prêts à gorge, c'est vrai. Là. C'est pas pour rien qu'on a le meilleur score en croissance de taxes. Nous sommes la plus basse croissance de taxes de toutes les plus grandes villes du Québec. Pourquoi? Parce qu'on a gardé les taxes super basses. Ajoutez à ça, là, tout ce qu'on fait en gratuité. On parlait des bains libres tantôt, là, des activités aquatiques. Les bains libres ici ne coûtent rien. À Lévis, ils coûtent en moyenne 3,50. On parle des bases de plein air gratuites. On parle des activités de loisirs gratuites. En fin de semaine, il y avait Réverbère. C'est un festival qu'on a créé des arts de la rue pour les familles. Là. C'était gratuit, ça aussi. La somme des activités gratuites à Québec pour justement soulager les familles qui puissent participer à différents événements, que ce soit la base de plein air de Val-Bélair ou une activité dans le Vieux-Québec, là, c'est plus que dans n'importe quelle ville. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on fait pour les villes, pas pour les villes, pour les citoyens, pour les familles, en plus du fait de garder le compte de taxes bas et en plus de diminuer la dette. Comment on a fait ça? On a rationalisé 87 millions de dépenses. Les gens ne le voient pas, là, mais 87 millions de dépenses qu'on avait avant, qu'on ne fait plus, justement pour se serrer à ceinture.
Dans votre mandat de 4 ans, ça?
Oui.
Fait que sa maman propose 96 millions pour le prochain mandat, fait que vous étiez pas mal égal à égal.
Oui,
ouais, c'est ça, vous étiez
c'est...
pas ça sort là, par texto, j'ai pas le choix de vous la poser. Vous dites, ouais, on n'a pas monté les taxes à l'inflation, mais il y a eu la taxe à l'immatriculation qui est arrivée de 60 $. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont fâchés de cette taxe-là?
Ben, je les comprends. Et moi aussi, j'aurais pas voulu mettre une taxe sur l'immatriculation. Pensez-vous qu'il y a un politicien qui dit hey, « je vais mettre une taxe sur l'immatriculation puis le monde va être heureux » à un an des élections? Mm-hmm. Pensez-vous que...
Ouais, je me souviens, vous avez dit « c'est pas une mesure électoraliste que je fais ».
Ben non. On l'a fait pourquoi? On l'a fait pour à chaque année ajouter un métrobus dans la banlieue. On l'a fait pourquoi? Pour ajouter un parcobus dans la banlieue, pour ajouter du flexibus, transport en commun à la demande, puis rajouter des avélos dans la banlieue. On l'a fait pour la banlieue, pour la couronne nord, au nord de la capitale et à l'ouest à Cap-Rouge. Pourquoi? Parce que présentement, le monde sont fucking pris dans la congestion. Puis les adversaires qui me critiquent, qu'est-ce qu'ils font, là? Ils n'en ont pas de solution à porter. Ils disent, ah, je vais prendre soin des automobilistes. Prendre soin des automobilistes, là, c'est de trouver des solutions pour que du monde trouve ça confortable, intéressant de prendre le métrobus qui part maintenant de Val-Bélair. Ça faisait 20 ans que les gens de Val-Bélair le demandaient. Mais c'est pas pour tout le monde, là. Quelqu'un qui nous écoute, moi, j'en veux pas de métrobus. Ouais. C'est correct. Mais tu as avantage à ce qu'il soit efficace et que du monde le prenne. Parce que c'est du monde de moins sur Henri IV devant toi demain matin. Tu as avantage à ce que du monde prenne le transport à la demande qui s'appelle Flexibus. C'est des autos devant toi quand tu t'en vas au supermarché ou quand tu t'en vas à l'aréna avec tes enfants. C'est ça le travail qu'on a fait. Alors, le 60 $ il ne me plaît pas. Mais on est la seule, avec la Société de transport de Gatineau, à améliorer les services de transport collectif et de transport actif. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une des rares façons de réduire la congestion puis d'arrêter que le monde soit pris dans le trafic. Après ça, les gens prennent le moyen qu'ils veulent. Il y a des radios qui m'accusent, notamment Choix FM, qui m'accusent d'être anti-voiture. Non. Mais la réponse est, si tu ne proposes pas de solution, bien, tu laisses les gens qui te regardent pris dans le trafic puis tu leur dis, bien, moi, je n'ai pas de solution, mais je vais écœurer le maire qui essaye, vous, de vous libérer puis de rendre ça plus fluide. Il n'y en a pas d'autre solution que de faire passer plus de gens dans différents moyens. Moi, je ne vais pas décider aux gens. Je ne vais pas demander aux gens de choisir un moyen de transport. C'est correct qu'ils prennent leur auto. Je veux juste m'assurer qu'il y ait plein de moyens, une panoplie de moyens, un bouquet de moyens qui fassent en sorte qu'il y en ait moins qui soient pris dans le trafic. C'est ça qu'on travaille.
Ça va-tu être la même recette si vous êtes réélu pour la suite des choses où on va vraiment avoir un genre d'assouplissement au niveau de la taxe, le OCHA, immatriculation, les taxes foncières? Est-ce qu'on est allé chercher tout ce qu'on voulait aller chercher puis il va y avoir une relaxation financière?
En taxes foncières, on va travailler à garder les plus basses au Québec.
C'est vraiment à titre comparatif. Ça ne sera pas joué sur Québec pour Québec.
Mais non, parce que nécessairement, le foncier d'une municipalité est basé sur les revenus que tu amènes pour offrir des services. Depuis les dernières années, la somme des services qu'on a à offrir, les impositions qu'on a, notamment de nouvelles responsabilités, c'est énorme. Fait que oui, on a besoin de coûts, on a besoin de revenus pour le faire. Mais sur la question de la taxe d'immatriculation, elle ne bougera pas autrement que l'indexation. On a promis un nouveau métrobus l'an prochain, il va en avoir un. On a promis un nouveau métrobus l'année d'après, il va en avoir un. Puis ça va être pour le Bourgneuf, ça va être pour Charlebourg, ça va être pour Beauport, ça va être pour la banlieue. On va livrer cette gare à la congestion qu'on fait. Puis la taxe Minou, là, à Victoriaville, il y a ça. Dans plein de villes du Québec, dans plein de grandes villes du Québec, il y a ça. Ça fait juste permettre à utilisateurs-payeurs d'avoir des revenus qui nous permettent de compenser parce que présentement, la SPCA n'arrive pas avec tous les chats errants. Ça fait juste compenser une partie des coûts. C'est juste ça. Fait que les gens, il y a des gens qui ont fait à croire qu'il y avait une police de ça. Il n'y a pas de police de ça, là. On fait appel à la responsabilité des gens. Si vous avez un chat, regarde, on vous invite à la payer, comme dans toutes les villes du Québec.
Vous avez dénoncé le climat sur les médias sociaux. Ma question peut avoir l'air d'une critique, mais ça n'en est pas une, OK? Mais la sortie que vous avez faite pour dénoncer les commentaires haineux, agressifs, les insultes, etc., c'est quoi l'objectif quand vous sortez là-dessus? Est-ce que vous voyez un impact? Est-ce que les commentaires cessent par la suite? Est-ce que c'est parce que vous sentez une responsabilité de prendre la parole? C'est quoi l'objectif quand vous faites une sortie comme ça?
Conscientiser des gens qui accepteraient de voir que peut-être que leurs pratiques nuisent à une vie démocratique saine.
Est-ce que ça peut ne pas avoir l'air un peu d'une victimisation? Est-ce que les gens sont trop durs avec les politiciens, finalement, puis vont se dire, franchement, ils se plaignent pour rien?
Puis j'étais pas le seul, là. Mais on va pas remettre le fardeau sur les victimes qui dénoncent d'être des victimes. S'il y a quelque chose qui marche pas, pensons à n'importe quel autre crime. On va pas à la femme qui se fait agresser, elle dénonce pour être victime. Non, il faut dénoncer. Puis nous, c'est ce qu'on a dit.
Mais insulter, c'est pas un crime quand même, là. Les gens sont.
Il y a de la violence en maudit, là.
Ça peut frôler avec la violence, mais je me demandais.
Il y a du racisme, il y a de l'homophobie, il y a
antifemme. Tout ça.
C'est fou, là.
Tout ça. Mais le climat sur les médias sociaux, il y a une partie qui sont des commentaires haineux qui pourraient même tomber dans la criminalité par moment. Mais le climat en général, est-ce que le fait que les élus eux-mêmes prennent la parole peut vraiment avoir un impact? Est-ce qu'on peut avoir un impact finalement là-dessus?
J'espère que les gens ne sont pas insensibles à ce niveau-là. La caricature que faisait Denis, que vous avez fait jouer tantôt, c'est vrai, là. Il y a des partisans d'un parti en particulier, là. C'est fou, là. C'est fou comment ça rentre. Il y a quelque chose à... Il faut comprendre, là, que tu as le droit de ne pas être d'accord, là. Je pense qu'il y a une éducation à faire parce que sur les médias sociaux, vous le dites, puis pour l'instant, selon moi, c'est pas acceptable. Tout parti confondu, là. On peut-tu juste se dire, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de commenter, tu as le droit de dire que c'est pas la bonne façon d'agir, c'est pas l'endroit que les argents sont mis au bon endroit. C'est parfait. Ça fait partie du débat démocratique. Puis il y a différentes propositions qui sont assez tranchées à Québec, là, pour faire valoir les différents courants, les différentes visions de la ville. Parfait. Après ça, là, si tu n'es pas capable de comprendre qu'à travers tes actions, tu écœures des gens qui essaient de s'engager pour leur ville, là, puis que tu nuis grandement à la démocratie, puis que tu te nuis à toi-même, parce qu'avec des menaces, moi, il y a des gens que la police est allée voir qui ont été arrêtés. Ah, j'étais juste chez les médias sociaux. Non. Tu peux pas menacer quelqu'un. Tu peux pas faire ça.
Juste notre collègue Jeff qui se fait dire « Retourne en dépression, puis tu devrais perdre ton micro », là, je trouve ça quand même sauvage, là, un homme qui fait tout ce qu'il peut pour offrir le meilleur show, là.
Et c'est inacceptable. Puis si tu l'aimes pas, le show de Jeff... Tu peux y écrire. Hey, j'aurais une suggestion. Hey, j'aime pas cette partie-là. Hey, je trouve que.
Tu peux aussi changer de poste. C'est ce que j'ai répondu à la personne. J'ai dit, donne-moi ton opinion réelle. Ouais. Puis j'ai pas eu de réponse.
Qu'est-ce que tu améliorerais? Qu'est-ce que toi, tu ferais?
Exactement.
T'sais, alors, que des gens expriment leur désaccord, que des gens expriment des suggestions, parfait. Que les gens aient voté le 2 novembre, c'est fait pour ça. écœurer des femmes sur leurs cheveux, sur leur poids, écœurer des gens sur leur parcours, sur leur vie, sur ce que tu supposes qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il est temps qu'on se dise entre nous, puis j'essaie de répondre à votre question, qu'on soit capable de s'auto-censurer puis de dire non, ça ne marche pas.
Qui devrait le faire, ce marchand?
Bien, on a tous une responsabilité. On a tous une responsabilité. Mais il y a présentement, j'ai envie de dire, une certaine portion de la population minoritaire, rappelons-le, là, qui ne sait pas se comporter et qui tue tout débat démocratique.
Et il y a
là.
Certains chefs de parti qui sont plus lents à dénoncer les
propos je vais terminer là-dessus. Selon vous, avec ce qui est arrivé dans la dernière semaine, le dernier week-end, avec les allégations justement à l'égard de respect citoyen, est-ce que pour vous, Stéphane Lachance devrait se retirer de la course à la mairie?
C'est pas à moi de juger ça. C'est à lui à juger, à voir en son âme et conscience qu'est-ce qu'il a fait. Mais il y a quelque chose qui est à faire. C'est qu'il faut, là, il accorde un point de presse cet après-midi. Il était temps. Va devant les médias. Comme maire, là, quand c'est pas le fun, j'y vais devant les médias. Je suis venu combien de fois à Boulevard?
Ah, vous êtes toujours venu ici, en effet.
Puis je réponds positif. Puis on n'a pas eu juste des entrevues le fun. Je vais pas à choix parce qu'il n'y a pas d'équité. Ici, j'ai de l'équité. Vous n'êtes pas toujours d'accord. Vous avez le droit d'être en total désaccord, mais on se fait traiter équitablement. Vous posez des
questions. Posais des questions sur Saint-Roch. Moi, ça m'a fait mal, ma petite Basseville.
Mais oui, puis vous posez des vraies questions. Puis j'essaie de répondre au mieux que je suis capable de faire. Mais c'est comme ça, je vais au 93.3. Je vais dans tous les médias parce que je crois à l'importance des médias. Il faut que Stéphane Lachance le fasse. Et il faut aussi, quand il dit que Ahmad a fait pire, il peut pas juste dire ça. Il faut qu'il prouve. Là. Tu peux pas accuser quelqu'un comme ça sans le prouver. Ben, si tu as des choses à dire, dis-les, c'est maintenant. Parce qu'il faut savoir ça avant le 2 novembre pour savoir qui est à risque d'être inéligible avec une enquête du directeur général des élections. C'est fondamental pour les citoyens de Québec.
Je termine, là, pour de vrai, je termine, parce que c'est ressorti beaucoup dans l'entrevue qu'on a fait par texto. Les gens disent « Ouais, mais vous reniez les citoyens qui écoutent Choix. » Vous répondez quoi à ces gens-là?
Non, non, j'ai aucune critique à faire aux citoyens qui écoutent Choix. C'est juste que je peux pas aller à Choix. Puis qu'après ça, on me prenne un segment de 8 secondes, qu'on le fasse jouer en boucle pour me faire passer pour un épais.
Ouais, vous trouvez que le traitement n'est pas équitable.
Il n'est pas mis en contexte. Ici, vous prenez des segments de ce que j'ai dit, vous les mettez sur les médias sociaux, il n'y a pas de traitement inéquitable. Vous prenez mes réponses, vous les mettez, vous les encapsulez, parce qu'une entrevue, c'est parfois long pour en faire la promotion. Mais vous alors que là-bas, il y a un traitement inéquitable, on fait des bandeaux pour me ridiculiser, on me déguise en mascotte, on me déguise en plein d'affaires, on me fait passer pour un cave de première. C'est pas ça, là. C'est complètement inéquitable. Alors non, je vais pas à choix. C'est pas contre leurs auditeurs. C'est juste que je peux pas avoir un traitement équitable. Il y a un parti pris. Cette radio-là, Choix FM, a choisi un agenda politique et utilise les ondes pour faire la promotion d'un parti. Bien, on peut pas dire que c'est équitable.
Merci beaucoup, M. Marchand, pour le temps que vous avez pris avec nous ce midi. Je m'excuse à Alexis, votre attaché de presse. J'avais dit que je prendrais moins de temps que ce que j'ai pris. Aviez tellement des bonnes réponses. Je sais que vous êtes attendu pour une autre entrevue. Merci infiniment.
Merci, honnêtement.
Fait plaisir. Bonne fin de campagne électorale. Merci puis beaucoup. Au plaisir de se recroiser. Débat à l'université ce soir.
Débat à l'université ce soir. J'ai compris sur vos ondes qu'il y a deux candidats qui seraient pas là.
Sa maman et Stéphane Lachance ne seront pas là.
C'est triste.
C'est triste parce qu'il faut intéresser la jeunesse à la politique.
Ils n'ont pas dit pourquoi.
Il y avait d'autres engagements.
Mais ça n'a pas
été clair.
Parce
qu'ils ont peur des jeunes. Parce qu'ils ont peur d'une ville qui réfléchit pour les jeunes.
Monsieur Marchand.
Non, mais sinon, ils seraient là. Ça fait deux débats que la chance va manquer à l'Université.
Alors, vous prenez ça pour acquis dans votre analyse ou vous l'avez entendu?
Bien, si vous me dites qu'ils ne sont pas là, je veux dire, nécessairement, là, ils sont à choix. Pourtant, au débat après-midi, ils sont là. Puis ils décident de... C'est un choix. C'est un choix qu'ils font. Et ils renoncent à une partie de l'électorat. Ils renoncent à la jeunesse.
Puis pour vous, ils ont peur des jeunes.
Ben moi, je pense que c'est très triste. Une ville, on l'a bâtie aussi avec ces jeunes. Puis on fait face aux enjeux que les jeunes...
Ou c'est pas assez pesant pour eux, dans la balance?
Peut-être qu'ils pensent qu'ils votent pas. Mais les jeunes, là, c'est ceux qui vont vivre le plus longtemps que nos décisions. Nos enfants, là, les gens qui nous écoutent, là, nos enfants, c'est ceux qui vont vivre le plus longtemps que nos décisions. Si on n'est pas bon, c'est eux qui vont payer le prix. Il faut aller se défendre devant eux. Qu'ils viennent pas ce soir, c'est triste.
Merci beaucoup, M. Marchand. Super. Salut. Apprécié. Merci. Bye. On fait une courte pause à Boulevard 101. Vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard. Par la suite, Pascal CV va nous expliquer son incroyable triple au Kilimanjaro. Merci à tout le monde d'avoir autant interagi au 418-971-1021. On en jase jusqu'à 14h.